Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 15 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, Joseph Kabila dit que son avenir politique est réglé par la Constitution, donc il ne se représentera pas pour un troisième mandat.
Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle.
En Égypte, la Cour de cassation annule la peine de mort pour l'ex-président Mohamed Morsi.
Barack Obama entreprend ses derniers déplacements en tant que président des États-Unis, en destination notamment de Genève, en Allemagne et au Pérou.
L'espoir et l'économie, juste après le journal.
Mon avenir politique est réglé par la Constitution. C'est la réponse de Joseph Kabila à toutes les interrogations liées à un éventuel troisième mandat. Le président de la RDC s'est adressé ce mardi au Parlement à Kinshasa. Il a rappelé ses réalisations au plan économique, politique et sécuritaire durant les 15 dernières années et annoncé la nomination imminente d'un nouveau Premier ministre. Monsieur Kabila a aussi dénoncé toute ingérence étrangère dans les affaires de la RDC.
Les Congolais viennent de démontrer que placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences. Ceci m'offre l'occasion de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays, qui a droit, comme tout État membre des Nations Unies, au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique. Et notre pays n'entend pas transiger là-dessus. Mon vœu le plus ardent est que, conformément à l'article 24 de l'accord politique, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas participé à sa conclusion, puissent y adhérer en le signant. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution.
C'était le président congolais Joseph Kabila, des propos recueillis par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En Égypte, la Cour de cassation a annulé aujourd'hui la condamnation à la peine de mort contre l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. On fait le point avec Eric Manirakiza.
Mohamed Morsi ne va plus porter l'uniforme rouge des condamnés à mort. C'est l'aboutissement d'un véritable marathon judiciaire que l'ancien président et sa défense mènent depuis 3 ans. La Cour a également annulé les condamnations de 25 co-accusés, dont l'ancien guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badier. Destitué par l'armée en 2013, M. Morsi a été condamné à 4 reprises depuis 2015. Mardi prochain, il comparaîtra dans un procès pour espionnage au profit du Hamas, dont il a déjà écopé la prison à perpétuité, et à partir du 27 novembre, un autre procès pour espionnage au profit du Qatar reprendra un appel. Le seul verdict définitif a été prononcé le 21 avril 2015. Mohamed Morsi a écopé de 20 ans de prison pour des violences contre des manifestants lorsqu'il était encore aux affaires.
Dans un rapport publié ce mardi, la Fédération internationale des droits de l'homme exhorte la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard au Burundi, où la répression bat son plein. L'enquête de la FIDH et de son organisation au Burundi, ITK, documente les crimes et la répression depuis le début de la crise provoquée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en avril 2015 et sa réélection en juillet suivant. Selon l'organisation, la crise a fait plus de 1000 morts, 8000 personnes détenues pour des motifs politiques, 300 à 800 disparus et a poussé plus de 300 000 personnes à l'exil.
Une plainte visant de hauts responsables mauritaniens accusés de torture à l'encontre de militants anti-esclavage actuellement jugés en Mauritanie a été déposée aujourd'hui à Paris. 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste avaient été arrêtés en juin et juillet pour leur implication présumée dans des violences contre la police au cours d'une manifestation. Condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison, leur procès en appel s'est ouvert hier. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
En Afrique du Sud, deux blancs sont poursuivis pour avoir tenté d'enfermer dans un cercueil un jeune noir et menacé de le brûler vivant. Willem Ostuizen et Théo Martins Jackson doivent comparaître mercredi devant un tribunal de Middelburg pour agression et tentative de coups et blessures. Le parti de gauche radicale Combattant pour la liberté économique s'est emparé de l'affaire et organise un rassemblement le même jour devant le tribunal.
La police de Kampala soupçonne un Ougandais d'avoir escroqué une société polonaise d'armement avec laquelle il a conclu un contrat fictif de 120 millions d'euros en se faisant passer pour un représentant du ministère de la Défense, a déclaré aujourd'hui la police.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour son dernier voyage à l'étranger, le président Barack Obama a souligné à Athènes, en Grèce, l'importance d'une Europe forte et unie et d'une alliance atlantique solide. Le point avec Idriss Fall.
Une Europe forte, prospère et unie est bonne pour les peuples d'Europe, pour le monde et pour les États-Unis, a déclaré Barack Obama à son homologue grec Prokopis Pavlopoulos, qu'il a reçu au palais présidentiel à Athènes. La Grèce, à la pointe de l'Europe, est un partenaire géostratégique crucial pour les États-Unis.
We have consistently been able to count on Greece as a friend.
Nous avons pu tout le temps compter sur la Grèce comme ami, comme allié et lien vital au sein de l'OTAN et de notre partenariat transatlantique. À Berlin, M. Obama va rencontrer mercredi la chancelière Angela Merkel, puis François Hollande, le président français, Theresa May, premier ministre britannique, et Matteo Renzi, premier ministre italien, viendront aussi dire au revoir à M. Obama. Son voyage s'achève en fin de semaine au Pérou, qui accueille le forum de coopération économique Asie-Pacifique, où il compte avoir un ultime entretien avec le président chinois Xi Jinping.
À Marrakech se poursuit la conférence sur le climat. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à plus d'aide financière et a exprimé son espoir que le futur président américain Donald Trump comprendra l'urgence de l'action contre le réchauffement de la planète. Nanit Talani.
L'ONU a appelé les pays développés à augmenter leur aide pour que les pays en développement puissent faire face à des dérèglements climatiques et la montée du niveau des océans. Nous devons réduire le fossé entre les besoins et les financements prévus pour les actions d'adaptation au changement climatique, a déclaré Eric Solem, le directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ban Ki-moon espère que Donald Trump, le président américain élu, comprendra le sérieux et l'urgence de l'action climatique et se dit convaincu que M. Trump prendra une décision sage. Pendant sa campagne, Donald Trump avait qualifié le réchauffement climatique de canular et de complot chinois. Il avait même menacé d'annuler l'accord de Paris et relancer la production américaine de charbon. Il n'est pas revenu sur ce thème depuis son élection.
Normalisation des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie. Les deux pays étaient à couteau tiré depuis 6 ans suite à l'assaut des forces spéciales israéliennes contre un bateau qui se dirigeait vers Gaza. 10 militants turcs avaient été tués. Ce mardi, le gouvernement israélien a nommé un ambassadeur à Ankara. L'État hébreu avait accepté un accord en juin prévoyant des excuses et 20 millions de dollars de compensation.
Les forces irakiennes ont repris plus du tiers de l'est de Mossoul, le groupe État islamique, selon le porte-parole du ministère irakien de l'Intérieur. Entre-temps, au sud, d'autres forces s'avancent vers l'aéroport, en périphérie de Mossoul. Daesh a conquis de vastes territoires en Irak et en Syrie en 2014, mais le groupe extrémiste sunnite a depuis perdu beaucoup de terrain dans les deux pays.
En Syrie, la rébellion est encore sous les feux de l'aviation russe et de l'armée gouvernementale. La Russie a mené ses premiers raids aériens à partir de son porte-avions en Méditerranée, prenant pour cible le groupe État islamique et d'autres organisations rebelles à travers le pays. Parallèlement, les avions de Bachar al-Assad ont bombardé pour la première fois depuis un mois des quartiers résidentiels tenus par les insurgés à Alep.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé une nouvelle initiative de paix pour le Yémen, impliquant un cessez-le-feu à partir de jeudi et un nouveau gouvernement d'union nationale avant la fin de cette année. Les rebelles ont réagi favorablement à la proposition, contrairement au gouvernement yéménite qui dénonce, et je cite, une tentative de faire dérailler les efforts de paix et de parvenir à un accord avec les Houthis sans le gouvernement.
Et pour la cinquième fois en un an, l'état d'urgence pourrait être prolongé en France. Le Premier ministre Manuel Valls a affirmé aujourd'hui que le gouvernement soumettra la demande au Parlement 2 mois avant l'expiration de l'actuelle mesure. Il n'a pas précisé la durée envisagée. L'état d'urgence avait été décrété par François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco avec Nani Talani.
En Algérie, 5,1 milliards de dollars, c'est le montant récolté par l'emprunt obligataire lancé par le gouvernement entre le 17 avril et le 16 octobre. De son nom officiel Emprunt national pour la croissance économique, son but était de mobiliser des ressources disponibles et endormies dans les tiroirs pour le financement des investissements. La chute des cours de pétrole sur le marché mondial avait eu de l'effet sur les recettes publiques, dont l'essentiel vient de la vente des hydrocarbures. Au Nigeria, la valeur des paiements bancaires via les services de technologie financière a fortement progressé au cours du troisième trimestre 2016. Le montant de ces paiements sur 3 mois a atteint 58,9 milliards de dollars en septembre. Il est en hausse de 23 % comparé au deuxième trimestre qui a été de 48,5 milliards de dollars, en évolution de 11 % sur celui du premier trimestre. Le succès des distributeurs automatiques de billets traduit une évolution des banques vers plus d'informatisation de leurs services pour toucher un nombre plus grand de clients et réduire les coûts attachés à la multiplication des agences bancaires. Adenia Partners, la firme de private equity qui investit dans certaines des entreprises les plus prometteuses d'Afrique subsaharienne, annonce avoir levé 180 millions d'euros pour son quatrième fonds, ce qui représente 90 % de la somme totale visée. Le fonds ciblera des entreprises générant un chiffre d'affaires entre 5 millions et 40 millions de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements entre 1 et 7 millions de dollars.
Passe maintenant à l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Parlons tout d'abord de la série de matchs amicaux ce mardi sur la planète football.
Bien parti pour la qualification mondiale 2018 avec 2 succès en 2 matchs dans le groupe A des éliminatoires. La Tunisie a été décevante ce mardi lors du match contre les Mourabitoun, les Mauritaniens, match nul 0-0. A noter que cette rencontre s'est terminée à 10 contre 10. Autre match nul, 1 partout entre le Gabon tenu en échec et les Comores. Djamel Bakar a ouvert le score pour les Comoriens. Les Gabonais auraient pu perdre puisque Ben Nabouane a tiré un pénalty sur la barre. Autre résultat, le Kenya qui bat le Libéria 1-0. À suivre ce soir, le Maroc face au Togo.
On joue aussi en Europe, Nicolas.
Oui, à suivre le choc à 19h45, temps universel. France-Côte d'Ivoire à Lens avec 1 minute de silence, observée en la mémoire de Laurent Pokou, l'icône du football ivoirien, décédé dimanche à l'âge de 69 ans. Autre belle confrontation, l'Italie contre l'Allemagne et l'Angleterre face à l'Espagne.
Deuxième étape du tour cycliste du Rwanda.
Le Rwandais Valence Ndayisenga remporte en solitaire cette étape entre Kigali et Karungi. Et le Kenyan Kangansi qui arrive deuxième à 1 minute 06 du vainqueur. Joseph Areruya perd la première place au classement général au profit de Ndayisenga. À suivre demain la 3e étape entre Karungi et Rusizi.
Et quelles sont les dernières nouvelles de la NBA, le championnat de basket nord-américain ?
Kawhi Leonard a offert 2e victoire d'affilée aux Spurs de San Antonio, 94-90 face à Miami. Oklahoma City a concédé sa 4e défaite de suite à Détroit, 88-104. Ce sont toujours les Clippers de Los Angeles qui sont premiers de la conférence Ouest après leur victoire 127-95 à domicile contre Brooklyn. À Houston, James Harden a enflammé le parquet en flirtant avec un 3e triple-double consécutif face à Philadelphie. La victoire 115-88.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Nathalie Barge, Chérubin, Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, Nathalie, Kinshasa.
Et oui, où le président Joseph Kabila a confirmé aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. « Mon avenir politique est réglé par la constitution de la RDC », a-t-il déclaré devant les membres du Parlement. Voici le reportage de Gino Rema de notre station partenaire Top Congo FM.
Dans son mot, le chef de l'État congolais a donné plus de précisions sur son avenir politique, Joseph Kabila Kabangé.
Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution.
Le président Joseph Kabila a aussi fait mention dans son discours de l'ingérence internationale, acte qu'il a dénoncé. Pour lui, les Congolais sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes.
Ceci m'offre l'occasion de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays, qui a droit, comme tout État membre des Nations Unies, au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique.
Et s'agissant de l'accord politique, le chef de l'État congolais a promis la désignation imminente du nouveau Premier ministre. Cette annonce a rassuré les participants au dialogue. Vital Kamerhe est co-modérateur du dialogue.
Il a fait l'état de la nation et nous sommes rassurés du fait qu'il va appliquer l'accord, respecter et faire respecter la Constitution.
Autre point abordé par le chef de l'État congolais dans son discours, c'est l'article 24 de l'accord politique. Cette disposition laisse une ouverture à d'autres acteurs politiques le désirant de rejoindre l'esprit de l'accord. Prince Willy Mishiki est membre du rassemblement ayant signé l'accord.
Nous avons apprécié la portée patriotique du discours du chef de l'État. Je crois qu'il n'y a plus de débat. Il a lui-même, il nous a renvoyé à la Constitution qui prévoit qu'après son mandat, qu'il soit sénateur à vie, et il a réitéré le respect de la Constitution et l'application stricte de l'accord.
Cependant, au rassemblement, on croit que seul un accord inclusif qui sortira de la médiation des évêques de la CENCO pourra aider le pays à sortir de sa crise politique actuelle. Les députés nationaux d'Elie Sesanga et du rassemblement.
Il faut absolument qu'on arrive à discuter de part et d'autre. Le rassemblement avec ceux qui ont négocié au Kanchachi et l'initiative qui a été engagée autour des évêques doit être poursuivie pour l'intérêt de ce pays. Ça ne doit être ni un chantage pour les uns, ni la prise en otage par les autres.
Qu'est-ce qui va se passer si le Premier ministre est désigné ce soir?
Ça ne nous concerne pas. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions consensuelles pour ce pays. Et à mon avis, on ne les a pas trouvées par rapport à la fin du mandat du président de la République et au calendrier tel qu'il doit être redéfini pour l'avenir de ce pays. Et si on n'a pas trouvé l'accord, à mon avis, ce serait enfoncer le pays dans une crise beaucoup plus profonde.
Bien avant, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a qualifié son bilan positif depuis qu'il est à la tête de la RDC, avant d'indiquer que d'autres défis restent à relever pour le bien-être des Congolais.
C'était Gino Rema de Top Congo FM, partenaire de VOA Afrique à Kinshasa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Les avocats de Jean Ping ont déposé une nouvelle requête en révision de la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise ayant permis la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Sachant que cela n'aura aucun effet, M. Ping compte tout de même épuiser tous les recours légaux pour contester les résultats du scrutin du mois d'août. Actuellement à Washington, il a déclaré à VOA Afrique attendre le rapport de la Commission européenne sur la mission d'observation qui avait conclu à une évidente anomalie dans les résultats finaux du Haut-Ogooué.
Nous savons presque d'avance ce que la Cour va dire. Mais nous avons engagé ce recours d'abord parce que nous voulons que tout le monde sache ce qui se passe et nous pensons aussi que bientôt nous allons avoir le rapport de la Commission de l'Union européenne. Donc en appui à ce rapport, nous pensons que c'est bon de continuer ce que nous appelons parfois le harcèlement judiciaire.
Cependant, la décision de la Cour constitutionnelle, normalement, est sans appel. Est-ce qu'il y a des cas de figure pour lesquels on pourrait faire ce type de recours, justement ? C'est le cas en particulier, là, non ?
Oui, c'est le cas en particulier parce que la Cour doit nous communiquer les résultats réels et nous avons 15 jours pour faire appel. Nous exploitons ça.
Beaucoup d'observateurs pensent que vous perdez votre temps. Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va apporter quelque chose ?
De la part de la Cour, c'est impossible. Et nous savons qu'il n'y a rien à faire avec la Cour constitutionnelle. Simplement, la communauté internationale, comme vous le savez, nous a amenés à suivre une procédure en disant qu'il faut suivre la procédure légale. Nous avons donc écouté la communauté internationale, bien que sachant que la Cour ne donnera rien de bon, nous avons suivi ce processus-là et nous devons l'achever.
Et après, une fois qu'il sera achevé, comme vous l'avez dit, vous savez que rien ne changera au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire ?
D'abord, nous pensons que la communauté internationale qui nous a poussés jusque-là doit prendre ses responsabilités. Nous savions que la procédure légale était viciée pour toujours. Nous avons donc suivi la procédure légale et ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Nous pensons que l'Union européenne, qui a suivi tout le processus, doit dire le droit.
Et quel pouvoir a-t-elle ? Une fois qu'elle aura effectivement mis au jour son rapport, quel sera son pouvoir par rapport à votre problème ?
Mais si nous avons appelé la communauté internationale à venir prendre part à l'observation des élections, c'est que nous pensions qu'elle avait un rôle à jouer.
Vous dites être le président élu. Est-ce que cela veut dire que vous allez former une sorte de gouvernement parallèle ?
Je ne dis pas que je suis le président élu. Je suis le président élu. Tout le monde le sait.
Alors c'est vrai que les chiffres ont été très parlants, en effet.
Mais bien sûr, toute la communauté internationale le sait. Les Gabonais le savent. Ali Bongo lui-même sait que j'ai gagné les élections et qu'il est en train d'essayer de voler ces élections. Tout le monde sait ça.
Vous êtes aux États-Unis juste après les élections américaines. C'est Donald Trump qui est le président élu. Votre sentiment par rapport à cela ? Et si vous pouviez faire un parallèle avec les élections américaines et les élections gabonaises ?
Oui, ce qui est admirable dans ce pays, c'est que les élections se passent tout à fait normalement. Et celui qui a gagné, quelle que soit l'opinion qu'on a de la personne, celui qui a gagné est proclamé vainqueur. Ce que nous voulons, c'est que des choses similaires se passent chez nous.
L'homme politique gabonais Jean Ping, joint ici à Washington.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme a publié un rapport sur la situation au Burundi. La FIDH exhorte la communauté internationale d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le rapport fait état de 1000 morts, 8000 détenus, 300 et 800 personnes portées disparues et plus de 300 000 Burundais contraints à l'exil. Un reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
La FIDH et son organisation ITK au Burundi sont un peu plus clairs. L'Union africaine et les Nations unies sont appelées urgemment à déployer une mission d'imposition de la paix pour protéger les populations civiles et relancer le dialogue politique sous la médiation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. C'est ce qui est ressorti dans un rapport publié par la FIDH qui parle des crimes qui sont à l'œuvre des forces du régime et du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mais le rapport relève également des exactions commises par des groupes armés Forebu, Force républicaine du Burundi, et Red Tabara, la résistance pour un état de droit. Mais pour le parti UIPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, ce rapport vient corroborer leurs analyses qui datent de très longtemps. Tassien Siboman.
Je pense qu'il est grand temps que des preuves contraires soient fournies. Faute de quoi, il est difficilement impensable que des organisations internationales, des experts onusiens, soient toujours taxés de menteurs ou de manipulés. Sans être précis quant aux chiffres, nous avons vécu, nous continuons à vivre ces violations massives des droits de l'homme. De toutes les manières, un millier de personnes qui auraient été tuées, ce n'est pas de l'exagération. C'est l'isolement complet du Burundi. À quoi veut-on en arriver ?
Pour le président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, certains signes sont perceptibles à travers le langage utilisé par quelques dirigeants du parti présidentiel, Zenon Manirakiza.
D'ores et déjà que ces chiffres sont avancés, il appartient au gouvernement gouvernement de prouver le contraire. Un risque de génocide, le gouvernement ne pourrait pas se dédouaner sans preuve contraire pour les cas déjà cités. Mais l'accord d'Arusha avait prévu l'instauration d'un observatoire de lutte et de prévention contre le génocide. Cet observatoire n'a pas été mis en place. Est-ce une omission involontaire ou volontaire?
Le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzebonariba, n'était pas disponible quand nous avons voulu connaître sa réaction. Mais le porte-parole adjoint du président burundais, Jean-Claude Ndenzako, affirme que ces organisations sont continuellement manipulées par l'opposition et rien d'étonnant quand tel rapport arrive au moment où la paix est totale sur toute l'étendue de la République du Burundi. Mais ces organisations ne pourront jamais aller à l'encontre de la volonté du peuple, selon toujours le porte-parole adjoint du président burundais. Pour la FIDH, le régime de Bujumbura s'est lancé dans une fuite en avant criminelle pour conserver le pouvoir, selon le président de la FIDH, Dimitris Christopoulos. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Mauritanie, le procès en appel de militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison s'est ouvert hier à Zouérat. Leur défense a soulevé des exceptions de procédure jugées suffisantes pour annuler le dossier. Et la Cour s'est prononcée sur ces questions. Nanit Talani a joint leur avocat, maître Arped Ould Eni.
Hier, il n'y avait pas de verdict. Ils ont juste joint les exceptions de procédure que la défense avait soulevées, les ont joint au fond. C'est-à-dire que la décision à leur propos sera rendue avec la décision finale. La décision qui les concerne sera rendue en même temps que le jugement final.
Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant?
Maintenant, le procès continue, et bien avec l'interrogatoire des accusés. Déjà, 5 ont passé et nous continuerons. Il y a une pause actuellement. Le procès reprendra à 17h.
Il y a une autre plainte qui a été déposée hier à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de la justice française?
Nous avons ici déposé nous aussi une plainte contre les tortionnaires. Et nous comptons que la procédure en France finira par donner raison à nos clients.
Vous pensez vraiment que la justice française pourra faire quelque chose dans ce sens?
Oui, oui. La justice internationale, d'une manière générale, doit faire quelque chose contre les tortionnaires. Si nous sommes dans un monde, nous sommes au 21e siècle, et il n'est plus acceptable que des gens continuent à torturer d'autres, à arracher aux victimes des aveux sous la torture.
Est-ce que maintenant vos clients ont de meilleures conditions de vie en prison ou ils sont toujours sous la torture?
Là, ils ne sont plus sous la torture. Ils étaient dans des conditions très difficiles à la prison centrale de Nouakchott. Et ici, à Zerat, nous pensons que les conditions sont meilleures.
Voilà, c'était maître Ahmed Oldeni, avocat mauritanien.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagno a dirigé la mise en onde. À la console, c'était Nachouane Calé. À la présentation, Nathalie Barge et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Continuez à nous envoyer vos commentaires et questions pour nos émissions interactives. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.